la fureur de Poséidon et l'obstination de Pénélope. Younes, Louis, Jade, Maël, Arthur.
Vous écoutez Radio Campus Tours.
Dans le chapitre précédent, Ulysse et ses compagnons ont survécu face à Charybde et Scylla.
Ulysse était un marin expérimenté et le radeau était bien conçu, solide, fiable. Il navigua 17 jours au bout desquels il aperçut loin à l'horizon de sombres montagnes entourées de brumes, tel un bouclier posé sur la mer. Calypso lui avait décrit la côte et lui avait nommé « La Phéacie », se réjouit-il. Comme la nymphe me l'avait dit, il n'est qu'à une journée de bateau. Je suis sauvé. Hélas, c'est le moment que choisit Poséidon pour revenir d'Éthiopie. Le dieu jeta un long coup d'œil circulaire sur son domaine maritime. Tout à coup, il sursauta.
Qu'est-ce que je vois là sur la mer ? Ulysse, sur un radeau ! Oui, ma foi, c'est bien lui. Il n'est donc pas encore mort ? Ah, ils vont m'entendre, mes collègues les dieux. Pas question de lui permettre de rentrer chez lui. Voyons s'il vient à bout de ça.
En quelques secondes, il rassembla de grosses nuées noirâtres et souleva la mer. Du bout de son trident, il déclencha un ouragan, commandant à tous les vents de malmener le radeau autant qu'il était possible.
Les flots montèrent et descendirent de plus en plus fort. Ulysse sentit son cœur fléchir. Il lui fallut tout son savoir-faire, toute sa ténacité, tout son courage pour maintenir tant bien que mal son petit radeau dans la tempête hurlante. Il grinça des dents farouches, furieux. « Malheur à moi ! Cette fois, ça y est, c'est le gouffre de la mort qui s'ouvre à mes pieds. Ah, j'aurais mieux fait de mourir au combat à Troie, comme Achille et les autres. J'aurais eu tous les honneurs funèbres et tout le monde aurait gardé la mémoire de mes exploits. »
Mais il ne lui fallait pas trop s'attarder dans ses pensées. Une vague plus grosse que les autres déferla sur le radeau et le retourna. Ulysse tomba à l'eau.
Non, au secours !
Mais il n'y avait personne pour l'aider. L'eau imbibant ses vêtements, l'alourdissait et l'entraînait vers le fond. Pourtant, à force de volonté, il réussit à s'en débarrasser et à revenir à la surface, toussant et crachant l'eau salée.
Le radeau n'était pas loin. Il n'avait qu'une idée, le rejoindre. Alors que le vent entraînait l'esquive ici ou là, il réussit finalement à l'atteindre et s'y cramponna avec l'énergie du désespoir.
C'est alors que l'attention d'Ino fut attirée par le malheureux Ulysse. C'était une divinité marine compatissante aux marins en détresse et aux naufragés. Elle prit la forme d'une mouette et se posa sur le radeau avant de secouer l'eau salée sur ses plumes et de reprendre sa forme de déesse.
« Eh bien, mon pauvre ami, j'ai l'impression que tu as mis Poséidon dans une colère carabinée. Que lui as-tu donc fait ?»
Mais Ulysse, prostré, anéanti sur les vestiges de son radeau, ne répondit pas.
« Qu'importe, continua-t-elle, je te veux du bien. Écoute-moi, saute de ce radeau et nage jusqu'au rivage. » Il releva péniblement la tête.
« Quoi ? Mais que la tempête, je ne pourrai... »
« Hé, confiance, regarde, je te confie une voile divine. Noue-le autour de toi et tu ne pourras pas te noyer. Quand tu seras arrivé à terre, détache-le et rejette-le à la mer pour que je puisse le récupérer. »
Là-dessus, elle reprit son apparence de mouette, s'envola et disparut en plongeant entre les vagues.
« Les divinités me veulent donc parfois du bien ?» se dit Ulysse reconnaissant.
Il déploya le voile autour de lui et se résolut à plonger dans la mer. Il nagea, ballotté par les vagues, pendant 2 jours et 2 nuits.
Puis le troisième matin, l'aurore éclaira de rose. Un matin enfin calme. Le vent était tombé et la terre était toute proche. « J'y suis !» se dit Ulysse. Le sol, les arbres, la terre ferme. Il était temps. Il ne sentait plus ses bras, ni ses jambes. Sa peau était abîmée, son souffle était rauque, et il ne pouvait plus parler. Peu à peu, il reprit haleine, il détacha le voile de la déesse enroulé autour de son corps, et le jeta dans les flots qui l'emportèrent pour le remettre à Ino.
Ulysse, nu comme à son premier jour, s'éloigna de la berge et chercha à se reposer. Il vit à l'embouchure d'un fleuve un vieil olivier qui avait une cavité assez grande pour le recueillir, comme un berceau. Les branches entrelacées ne laisseraient passer ni le vent ni la pluie. Les flèches sèches accumulées dans le trou formaient un matelas. Ulysse s'y installa et s'y enfouit.
Athéna, apitoyée, versa sur ses yeux un doux sommeil. Et pour le délivrer de son immense fatigue, elle ferma doucement ses paupières. Pendant ce temps, à Ithaque, le royaume était sans roi depuis 20 ans, ou presque. Personne n'avait de nouvelles d'Ulysse. Pénélope, sa fidèle épouse, et Télémaque, son fils devenu jeune homme, avaient su par des voyageurs que la guerre était terminée et que les rois victorieux étaient rentrés dans leur royaume. Mais Ulysse, lui, manquait toujours à l'appel.
Et dans le palais, durant ces années, s'étaient imposés des princes venus d'Ithaque, d'autres îles ou du continent, au début dans les desseins d'aider Pénélope. Mais maintenant, ils se pensent les maîtres du palais. Ils piochent dans les réserves, mangent et buvent sur le compte du palais. Ne faisaient rien de leur journée, sinon s'amuser, jouer aux dés, s'exercer aux armes, se battre, et banquet en brillant.
Pénélope n'était plus chez elle. Pis encore, elle finit par lui demander qu'elle se choisisse un mari parmi eux. Depuis quelque temps, Pénélope, il faut un roi pour régner sur Ithaque. Choisis parmi nous.
Choisis-moi, je suis le plus beau.
Non, moi, je suis le plus fort.
Je suis le plus riche, tu auras de somptueux présents de noces.
Mais Pénélope détournait la tête, dégoûtée, et retournait au gynécée, où elle tissait et brodait un magnifique linceul pour le jour où Laërte, le père d'Ulysse, qui était déjà bien vieux, rendrait l'âme.
Devant l'insistance grandissante de ses prétendants, elle déclara un jour:
je ferai un choix quand j'aurai terminé de tisser et de broder le linceul de mon beau-père. Elle avait bien l'intention de faire traîner son ouvrage autant qu'elle le pourrait.
Bien sûr, les prétendants, eux, lui demandèrent de vite retourner au gynécée et de se remettre sans tarder à ses fils et à ses aiguilles. Ils avaient tous hâte de le voir terminer.
Athéna, du haut de l'Olympe, surveilla toujours attentivement ce qui concernait Ulysse et sa famille. Elle se rendit compte que Télémaque, le fils d'Ulysse, était détesté des prétendants et elle résolut de l'éloigner d'Ithaque.
Elle descendit du palais au-delà des nuages, armée de lances et cuirassée, déguisée en noble étranger, et ne tarda pas à sympathiser avec le fils du roi d'Ithaque.
Regarde-les, lui dit bientôt Télémaque, en désignant les prétendants. Ils ne pensent qu'à jouer, boire et manger. Vautrés sur nos coussins, ils dilapident en repas et en boissons tout mon patrimoine, en attendant de pouvoir épouser ma mère. Que peux-tu faire ?
Rien, je me sens menacé, et à mon avis, ils veulent ma peau. Ah, si mon père pouvait revenir, mais il doit être mort maintenant.
Ton père, questionna, ne de rien là. Déesse déguisée en soldat.
Le roi d'Ithaque, Ulysse ?
Mais Ulysse n'est pas mort.
Quoi ?
Tu as bien entendu, jeune homme. Ulysse n'est pas mort. La dernière fois que je l'ai entendu parler de lui, il se rapprochait de son royaume. Il n'était plus très loin.
Où puis-je le trouver ? Demanda Télémaque pressant.
« Va à Star, conseilla Athéna. Mélénas, qui avait combattu avec lui à Troie, pourra peut-être te donner quelques renseignements utiles. »«
Je partirai dès demain matin, » assura Télémaque.
Au matin, Athéna, satisfaite d'avoir mis Télémaque à l'abri des prétendants, en l'éloignant, avait disparu du palais. Le jeune homme, le jour même, prenait secrètement la mer.